Ah, bonjour tout le monde, bienvenue, foule. Vous avez pris vos notes à l'entrée, vous les recevez aussi. Et votre Bible. Je vais lire beaucoup de versets ce matin. Alors simplement pour la vidéo, on est dans le cours « Croyez-vous vraiment? » Et puis ce matin, on couvre la doctrine de Dieu. Comme ça, sans prétention, 50 minutes, on va couvrir Dieu. Dit comme ça, ça semble assez ridicule, hein? Je vais prier, puis ensuite, on va faire une petite expérience ensemble. C'est bon? On va dans la prière. Père éternel, nous sommes assemblés devant toi, désireux, Seigneur, de te connaître intimement, de te connaître vraiment, de reconnaître qui tu es dans ta grandeur, ta beauté. Parce que, Seigneur, nous croyons que lorsqu'on prend un peu la mesure de toute ta majesté, ta puissance, ta grandeur, nos cœurs s'apaisent, Seigneur. Sachant que tu nous aimes, nos cœurs sont en adoration, nos cœurs sont sereins, nos cœurs sont confiants. Seigneur, tu es, et lorsqu'on prend conscience que tu es et ce que tu es, Seigneur, les choses s'ordonnent autour de nous. Les choses se placent, Seigneur, parce qu'on vient se reposer en toi, t'adorer, te connaître. Et Seigneur, la marche chrétienne, la marche même dans la sainteté est tellement plus aisée lorsque nos yeux sont fixés sur toi que sur nous. Alors, on te prie de nous édifier ce matin et de nous aider à grandir dans notre connaissance de toi afin que cette connaissance-là, Seigneur, nous accompagne chaque jour. Pas seulement dans des moments où on ouvre notre Bible dans un cours. C'est en Jésus qu'on te le demande. Amen. Dans son livre, Paul Tripp fait quelque chose que j'aime beaucoup. Il prend la confession de foi de Westminster, qui est probablement la plus belle confession de foi contemporaine. Elle date déjà, mais ça a été remise à jour. Vous pouvez la trouver en français. C'est une confession de foi qui est vraiment pas uniquement cérébrale, qui comme nous porte à voir chacun des points de doctrine. Qui est Dieu? Qui est l'homme? Qu'est-ce que le péché? De manière un peu poétique pour en saisir la beauté. Puis Paul Tripp, ce qu'il fait au début de chaque chapitre, je regrette de ne pas l'avoir fait dès le début du cours, il fait sa propre transcription. Et comme je l'ai déjà dit, Paul Tripp écrit très bien. Il a vraiment une belle plume. Et donc, ce que j'ai pensé faire pour vous ce matin, avec mon assistant personnel, AI, mais j'ai pris le temps de réviser, parce que des fois, il dit absolument n'importe quoi. J'ai pris le temps de traduire cette déclaration au début. Alors, ce que je vais vous demander de faire, si vous le voulez bien, parce que vous ne l'aurez pas d'affiché à l'écran, et c'est volontaire, je vais vous demander de fermer les yeux, et je vais vous lire une transcription contemporaine de la confession de foi de Westminster en français sur la personne de Dieu. C'est bon? Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Il est infini dans son être et dans sa perfection. Il est invisible, sans corps, sans partie, sans passion. Il est immuable, immense, éternel et au-delà de toute compréhension humaine. Il est tout-puissant, parfaitement sage et parfaitement saint. Il est absolument libre et souverain, agissant en toutes choses selon le dessein de sa volonté immuable et juste pour sa propre gloire. Il est plein d'amour, de grâce et de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Il récompense ceux qui le cherchent avec persévérance. Il est juste et redoutable dans ses jugements. Il hait le péché et ne tient point le coupable pour innocent. Dieu est la source de toute vie, de toute gloire, de toute bonté et de toute bénédiction, en lui-même et par lui-même. Lui seul se suffit parfaitement à lui-même. Il n'a besoin d'aucune des créatures qu'il a faites et ne reçoit d'elles aucune gloire. Au contraire, il manifeste sa gloire en elles, par elles, à elles et sur elles. Il est la fontaine de tout être. Toutes choses sont de lui, par lui et pour lui. Il est souverain sur toutes choses pour faire par elle, pour elle et sur elle tout ce qu'il lui plaît. Il voit toutes choses et rien n'est jamais caché devant lui. Sa connaissance est infinie, sans erreur et indépendante de toutes choses créées. Pour Dieu, il n'y a ni hasard ni incertitude. Tous ses desseins, toutes ses œuvres et tous ses commandements sont saints. Il est digne de toute adoration, de tout service et de toute obéissance qu'il lui plaît d'exiger des anges et des êtres humains et de toute autre créature. Dans l'unité de la divinité, il y a trois personnes, d'une même substance, d'une même puissance et d'une même éternité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Père n'est ni engendré, ni ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. Le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils. Voici notre Dieu. Amen. Wow! Quel Dieu incroyable! Quel Dieu incroyable! Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui avaient décroché 10 fois là, parce que vous avez dit, « C'est quoi ce mot-là? » Tu comprends? Oui. Oui, je vais les faire ajouter cette semaine dans les notes du cours. Et donc, avec PCO, tout ça, c'est ce que vous allez avoir. S'il y en a qui n'ont pas du tout accès à PCO, là, vous ne les recevez pas par courriel même, faites-moi signe, puis on s'assurera d'avoir quelques copies. Ça va? Oui, c'est ça. Dans le fond, vous allez l'avoir dans le lien. Ça va? Ah oui, à 100%. Oui, c'est ça. Lorsqu'on... Oui, dans le fond, il l'a regroupé. Tu sais, la Bible dit ça un peu partout. C'est vraiment ça l'idée d'une confession de foi. Hein? C'est de faire une synthèse de vérité qu'on trouve partout dans la Bible en parcelles, puis là, on met ça ensemble. C'est comme une définition de Dieu. C'est comme une entrée de dictionnaire très complète. Puis en fait, incomplète, parce que ça ne dit pas encore qui est Dieu. Il est plus grand que tous les mots qu'on possède pour parler de lui. Donc, le thème central ce matin, c'est vivre chaque sphère de la vie humaine, de l'existence, à la lumière de l'existence, de la gloire et de la grâce de Dieu. Ce matin, notre doctrine qu'on regarde, c'est la doctrine de Dieu. Qui est Dieu? Dans les prochaines semaines, on va aller voir certains de ses attributs, certaines de ses qualités. La semaine prochaine, on se concentre sur la sainteté de Dieu. C'est souvent un petit peu difficile à saisir, à comprendre. Mais là, on va parler simplement de la personne même de Dieu. Encore une fois, c'est presque odieux de consacrer si peu de temps à la doctrine de Dieu, mais le but du cours, c'est de voir comment ça s'applique dans nos vies au quotidien. L'objectif global du cours, approfondir une vision biblique, grande et transformatrice de Dieu. Hein, c'est là l'accent de ce cours-là, c'est que la doctrine est appelée à nous transformer, afin que notre foi ne soit pas seulement confessée dans notre bouche, mais vécue dans toutes les sphères de la vie quotidienne. Les objectifs spécifiques du cours, à la fin de la session, l'étudiant devrait être capable de comprendre pourquoi l'existence de Dieu est le fait ultime qui façonne toute la vie humaine. C'est ça qui devrait orienter toute notre vie, Dieu, tout simplement. Identifier différentes manières dont les êtres humains répondent à l'existence de Dieu. On est dans Romains, il y en a qui répondent à l'existence de Dieu en niant son existence. D'accord? Par exemple, c'est un exemple. Reconnaître la beauté de la grâce de Dieu révélée dans la création, dans la croix, dans son immutabilité, dans le fait que Dieu est et ne change pas. Examiner honnêtement les formes de théisme pratique ou d'athéisme fonctionnel dans sa propre vie. Les endroits où on a parlé hein, déjà d'un écart entre ce que je professe et ce que je vis. Que je dis que Dieu est souverain, puis après ça, je fais de l'anxiété à l'infini pendant tout le reste de la semaine. Mais en plus, je dis que Dieu est amour, puis que Dieu est souverain. En plus, je dis que Dieu est amour, Dieu est souverain, puis j'ai été choisi. Et là, je suis anxieux toute la semaine. Bien, finalement, l'athée est peut-être moins anxieux que moi. Fait que c'est pour ça qu'on parle d'athéisme fonctionnel. Vous comprenez? C'est une manière de se mettre au défi de s'examiner. Passage clé, lorsqu'on parle de Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, avant toute chose, Dieu. Dieu, tout simplement. Paul Tripp dit, « La doctrine de Dieu n'est pas simplement une doctrine parmi d'autres, elle façonne et informe toutes les autres doctrines. » Donc, tout ce que nous connaissons sur nous-mêmes, de significatif dans le sens de pourquoi j'existe, à quoi je sers, d'où je viens, tout ça découle premièrement d'une doctrine, c'est Dieu, parce que c'est lui l'auteur. C'est la doctrine fondamentale. Quand on fait... coupe. Quand on écrit, admettons, une théologie systématique, les théologiens qui coupent les cheveux en quatre débattent à savoir est-ce que la première doctrine devrait être les Écritures ou Dieu? Parce que sans les Écritures, on ne connaît pas Dieu, mais tout commence avec Dieu. Fait que la doctrine fondamentale, la personne de Dieu lui-même. Qui est Dieu selon les Écritures? Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale. Je vais m'assurer là, de garder un bon 20 minutes, 25 minutes à l'application. Donc, vous allez trouver qu'on va assez vite sur la personne de Dieu, sur la doctrine de Dieu lui-même. Mais c'est fondamental de comprendre qu'il y a un seul vrai Dieu. Et donc, lorsque les gens viennent vous voir et vous disent « Ouais, mais toutes les religions du monde adorent le même Dieu. » Je ne sais pas, parce qu'il va falloir que ce soit ce Dieu-là. Ce Dieu-là a un fils, il s'appelle Jésus-Christ. Ce fils-là est Dieu le Fils. Bon, je viens d'éliminer l'islam au complet. D'accord? Le bouddhisme, oubliez ça, là. Donc, tous les êtres humains et toutes les religions du monde ne parlent pas d'un seul même Dieu. Non, il y a un seul vrai Dieu. Tous les autres sont de faux dieux. Soit des chimères dans notre imagination, soit des démons. Donc, il y a peut-être une réalité spirituelle qui est là, vivante. Ce n'est pas Dieu. Où il n'y a pas de réalité spirituelle, c'est juste une chimère, le fruit de notre imagination, mais il y a un seul Dieu, infini, éternel, immuable, il ne change pas. Là, il y a des mystères, vous allez voir, on va terminer ça, puis vous allez dire, oui, mais on n'a pas répondu à plein de questions, la Bible nous dit, utilise un langage comme Dieu se repent d'avoir voulu frapper Israël, t'sais. Mais il ne change pas. On ne va pas résoudre tous ces mystères-là ce matin, on est vraiment dans une synthèse. Il est invisible et parfaitement saint. Ça veut dire qu'il est entier. On va parler de la sainteté beaucoup la semaine prochaine. Il est entier en lui-même, il est à part, il est unique, il est incomparable. Il est Dieu. Il est sans limite dans son être, dans sa sagesse, dans sa puissance et dans sa gloire. Quelques versets rapidement, Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il est le seul, il n'y en a pas d'autre. Et donc, lorsqu'on décide, un petit peu par timidité, ou on a l'impression qu'on veut respecter les gens, en n'entrant pas dans un débat à savoir est-ce que le Dieu que j'adore est le seul vrai Dieu, je suis en train de reculer devant cette vérité-là. Là. Il y a un seul vrai Dieu. Et quand je croise quelqu'un qui me dit « Ah, c'est sympathique, toi t'es chrétien, moi je suis d'une autre religion, puis dans le fond, tu sais, on a chacun notre foi. » Si je me tais à ce moment-là, je suis en train de bercer la personne d'illusion d'un mensonge mortel. On n'a pas la même foi, parce que le Dieu que tu adores n'existe pas ou c'est un démon. Il y a peut-être une autre manière de le dire, mais c'est quand même là qu'il faut que j'arrive. D'accord? Il y a un seul Dieu. Et moi, ce que je vous dis ce matin, c'est qu'il y a des gens dans l'Église, probablement des gens baptisés et membres, qui se disent « Ouais, mais quand même, tu sais ». Ils ne sont pas nono, ces gens-là. Ce n'est pas la question, là. Vous savez, bibliquement, on est tous nono, là. Ça me prend la révélation de la Bible. Et donc, c'est non négociable. Il y a un seul Dieu, c'est ce Dieu-là. Ésaïe 46, 9 à 10. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre Dieu. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » Ah, les chrétiens, vous adorez ce Dieu-là, nous, on adore ce Dieu-là, tu sais, c'est sympathique. Ça nous donne tous des belles valeurs pratiques. Puis dans le fond, tu sais, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Il est enseigné nulle part, dans aucune autre religion, comme il est enseigné dans le christianisme. Parce que la mesure de « aime ton prochain comme toi-même », c'est « aime ton prochain comme Jésus-Christ t'a aimé ». Ben, il faut encore savoir que Jésus-Christ, ce n'est même pas juste un prophète, ce n'est même pas juste quelqu'un de très bien, c'est Dieu incarné. Aime ton prochain comme toi-même, comme Jésus-Christ t'a aimé. Psaume 90:2, « Ayant, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Je pense qu'une des choses les plus difficiles pour nous à concevoir, c'est que Dieu existe à l'extérieur de l'espace et du temps. L'espace, quand on considère l'univers, tu sais, tu regardes les étoiles ou si vous aimez étudier l'astronomie, l'espace est une création de Dieu. Dieu est à l'extérieur de l'espace. Il est à l'extérieur du temps. Quand il parle d'éternité en éternité, il veut dire hors du temps. C'est des choses qu'on n'arrive pas à concevoir. On considère l'éternité puis on se dit, ça peut être long l'éternité. Oui, mais si Dieu m'amène dans ce lieu où j'existe à quelque part hors du temps, parce que c'est éternel. Mais le temps n'est pas long, le temps est magnifique si tu es avec Dieu. Ça ressemble plus. Essaie de te rappeler la dernière fois que tu as eu un super de bon temps avec un ami. Tu te dis, boy, le temps a passé trop vite. L'éternité va ressembler à ça constamment. Mais en fait, on va dire, ah, mais le temps ne passe pas. Ça va être incroyable, ça va être incroyable. Donc, il y a un seul Dieu. Aucun autre Dieu n'est comparable parce qu'il n'y en a pas d'autre. Dieu est autosuffisant et souverain. Il n'a besoin de rien ni de personne. Tout existe par lui, pour lui et en vue de lui. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un jeu dans ma tête où je regarde un jugement de Dieu, puis là, j'ai tendance à projeter sur Dieu comme Dieu est mesquin ou... Ah oui, tu sais, par exemple, on va le couvrir un petit peu, là, mais Dieu trouve que la plus belle chose dans l'univers, c'est sa gloire. Puis la meilleure chose qu'il peut faire, c'est de te dire, regarde comme je suis magnifique. Vous dire à quel point on ne comprend pas ces choses-là, nous, on se dit, ben quand même, tu sais, un peu d'humilité, s'il te plaît, Dieu. Mais vous comprenez que si Dieu était humble comme toi et moi, on est appelé à être humble, il ne serait plus Dieu, il serait fou, il serait insensé, parce qu'il ne serait pas en contact avec la réalité. Si Dieu disait, ne me regardez pas, je suis trop humble pour vous montrer toute ma majesté, ça serait aussi ridicule que si je disais ça, là, c'est de l'air, moi je peux passer à travers. Non, Dieu ne serait pas lucide. Dieu est simplement lucide lorsqu'il dit « Adorez-moi ». Parce qu'il n'y a rien qui peut vous procurer autant de bonheur, il n'y a rien que vous pouvez faire d'aussi juste et intelligent, d'aussi raisonnable et sensé, scientifiquement, spirituellement, moralement. Prenez-le comme vous voulez. Il n'y a rien d'aussi juste que de m'adorer. Là, nous, on entend ça. Écoute, là, on se dit quand même, petit malaise, là. C'est vous dire combien on ne réalise pas qui est Dieu, parce qu'il n'y a pas de malaise à avoir là. Il n'y a aucun malaise à avoir là. C'est comme si un coucher de soleil disait, « Écoute, il faut que je me cache. » Non, non, je veux le voir, le coucher de soleil. Je veux le voir, je veux le contempler. Mais Dieu, c'est une infinitude de couchers de soleil. Donc, Dieu est tout autosuffisant et souverain. Il n'y a pas besoin de nous. Puis nous, on entre dans des jeux où on dit, « Oui, mais alors, laissez-moi comme... Je vais mettre un grain de sable dans votre raisonnement, OK? » J'ai des gens, des fois, qui viennent me voir et qui me disent, « Écoute, j'ai de la difficulté avec l'élection, tout ça. OK, Dieu a choisi des gens, tout ça. » Mais je dis, « Attends, je vais te poser un problème plus compliqué que celui-là encore. Oublie l'élection, là. Dieu sait déjà qui va accepter l'Évangile ou non. On est au moins d'accord que Dieu connaît le futur. Hein? Jusque-là, est-ce qu'il n'aurait pas pu ne pas créer ceux qui ne choisiront pas de marcher dans ses voies? Il aurait pu au moins faire ça. Tu sais, tu crées juste ceux qui vont te choisir. Bien, Dieu a créé le diable aussi, sachant très bien que le diable allait faire tout ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il n'aurait pas pu juste ne pas le créer? » Là, quand je m'en vais là, plein de chrétiens, rendus là, ont un problème moral avec Dieu. Ils sont comme pas bien avec Dieu. Je dis, mais pourquoi tu as fait ça? Et je dois, dans mon cœur, si je veux vraiment connaître Dieu, arriver à un endroit où je dis, Dieu n'avait pas besoin de rien, et Dieu est suffisant et parfait. Et ça, là, c'est mystérieusement beau. C'est pas une doctrine gênante. C'est une doctrine que tu comprends mal tant que tu es gêné de l'assumer. Mais oui, Dieu a créé tous les êtres humains sachant qu'il y a peu d'élus. Définis l'élection comme tu veux ce matin. Pas de problème. Vous savez que je suis calviniste, là. Donc on pourrait discuter de ça. Définis-la comme tu veux ce matin, l'élection. Il y a peu d'élus. Il aurait pu juste pas créer les pas élus. Et si tu es gêné avec ça, je le conçois parce qu'on est fini. On est limité comme être humain. Notre compréhension de Dieu est très limitée. Mais si tu es mal à l'aise avec ça, tu ne mesures pas bien la grandeur et les perfections de Dieu. Le plus loin que je vais me rendre, c'est dans une posture de mystère. Je veux dire, Seigneur, je n'arrive pas à concevoir ces choses-là, mais je sais que c'est magnifique. Je sais là, que j'ai mis du sable dans l'engrenage, là, mais c'est ça qu'on fait ici. Là. On essaie de connaître Dieu, d'accord? C'est bon? Dieu est autosuffisant et souverain. Alors, non seulement il a besoin de personne, mais il est souverain. Tout ce qui se passe entre dans ses décrets. Encore une fois, beaucoup de mystères. Tout ça, ça entre dans les décrets de Dieu. Dieu a décidé. Et pourtant, Dieu ne fait pas le mal. Dieu ne pêche pas. Il y a beaucoup de moments où je m'arrête. J'aimais beaucoup cette image de C.J. Mahaney qui avait dit, c'était dans son petit livre sur l'humilité, je pense. Il dit, étudier la personne de Dieu, c'est comme s'avancer en mer. Je l'ai déjà dit souvent à l'Église. C'est comme s'avancer en mer. Puis, tu sais, quand tu vas devant l'océan, là, tu sais qu'à un certain moment donné, si tu vas trop loin par là-bas, tu ne reviens plus ici. Là. Puis là, tu avances en mer, puis à un moment donné, tu perds pied, puis tu dis, si je continue quand la marée descend, je ne reviens pas. Tu recules de quelques pas, là tu dis, on va s'arrêter ici, ça va suffire pour aujourd'hui. Ça, c'est faire de la théologie. Il y a un moment où je m'arrête, puis je dis, plus loin, je pense que je vais perdre pied. Je recule un peu, ça va suffire pour aujourd'hui. Demain, on ira peut-être plus loin. Mais je dois avoir cette humilité-là. Autrement, je deviens arrogant, puis là, je vais déformer tout ce que Dieu nous révèle sur lui, parce que je vais entrer en conflit moral. Dans mon cœur, je vais dire, ce Dieu-là, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas le reconnaître. OK, tu vas m'expliquer qui est Dieu, toi. Tu sais, sérieux. Ça va? Paul Tripp dit, tout ce qui existe dépend de Dieu pour son existence, mais Dieu ne dépend de rien ni de personne. Donc, Dieu est autosuffisant. Dieu est Trinité. Dieu est un seul Dieu, en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toute personne qui ne reconnaît pas que Jésus est Dieu offense Dieu. Rejette la personne de Dieu. De la même manière que quelqu'un qui me dirait, « Moi, Yannick, je t'aime bien, mais j'haïs ta femme. » Est-ce qu'on peut redéfinir « m'aime bien, s'il te plaît? » C'est ma chair. Trouve le moyen de l'aimer. Toute personne qui remet en question la Trinité rejette la personne de Dieu parce que Dieu se révèle comme Père, Fils et Saint-Esprit, unis parfaitement en essence. C'est mystérieux, ils sont d'une même substance et c'est trois personnes. Ça a des implications concrètes, ça veut dire qu'ils sont parfaitement en communion, le Père, le Fils et l'Esprit. Encore une fois, ça pointe dans la direction qu'ils sont autosuffisants. Dieu est autosuffisant. Unis parfaitement en essence, en gloire et en volonté. Dans Matthieu 28, 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est Jésus lui-même qui nous a donné ça. C'est une confession de foi. « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jean 1, 1, « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Elle était avec Dieu. Et elle était Dieu. Le Fils est avec Dieu et il est Dieu. Donc, il est autre, mais il est la même substance. 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. On appelle ça des confessions de foi trinitaires. D'accord? C'est des passages où on a ces indices-là de plus en plus clairs, de cette notion, le mot qui n'est pas dans la Bible lui-même, la Trinité. C'est un mot que l'Église s'est donné pour essayer de, encore une fois, de faire la théologie. On essaie de donner, de résumer quelque chose qui est là dans les Écritures. Parce que Dieu se révèle comme ça progressivement à travers la Bible, on fait des synthèses. Mais le mot Trinité, là, c'est de la théologie. On s'est créé un mot, on s'est donné un mot pour résumer une vérité qu'on voit là dans les Écritures. À retenir, la Trinité n'est pas un problème à résoudre, mais une gloire à adorer. Et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Chaque fois que vous arrivez devant une vérité sur Dieu, sur la personne de Dieu, puis votre cœur est troublé, ne vous dites pas, s'il vous plaît, « je vais pouvoir adorer quand je vais comprendre ». Parce que vous comprenez, dire « je vais pouvoir adorer Dieu quand je vais le comprendre », c'est une impossibilité, là. Tu ne vas pas comprendre Dieu. Je veux dire, même quand on va le connaître comme il nous a connus, je n'ai pas la prétention que mon intelligence va prendre une expansion infinie à un point tel où Dieu et moi, on va se regarder face à face puis on va être des égaux, là. Ça ne se produira jamais, ça. Donc, c'est mystérieux. Donc, quand vous arrivez face à une doctrine qui trouble votre cœur, puis vous dites, « Oh, Seigneur, j'ai de la difficulté à l'accepter », mais vous devez prendre la voie de reconnaître qu'il y a des mystères dans la parole. Il y a des mystères, et c'est facile de comprendre pourquoi il y aurait des mystères dans la parole. C'est qu'on est des êtres limités qui essayons de saisir un être illimité. On est des êtres finis, hein? Je ne suis pas infini. Puis on essaie d'appréhender, de comprendre un être infini. Ça veut dire qu'il va y avoir des mystères. On explique des choses à nos enfants, puis souvent, tu sais, quand ils arrivent à ce moment où la seule chose qu'ils savent dire, c'est pourquoi, t'as beau leur donner toutes les réponses du monde, à la réponse vient un pourquoi. Oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Il y a un moment où tu te dis, OK, va jouer dehors. C'est bon? Mais c'est ça que je dois faire face à certaines vérités bibliques qui me troublent. C'est bon d'aller dans le « oui, mais pourquoi? » Vous rappelez mon image, hein? J'avance dans l'océan. Puis je veux saisir parce que plus j'en saisis, plus c'est beau. Moi, personnellement, là, la doctrine de l'élection telle qu'elle est révélée dans Éphésiens 1, je capote. Ça me conduit dans l'adoration. Ça ne me trouble pas. Puis je sais qu'il y a des gens, je leur explique, puis là, ils se disent « mais dans le fond, tu es un être cruel ». Non, pas du tout. C'est juste que c'est là dans la Bible, puis je contemple la gloire de Dieu, puis j'accepte ça. J'accepte que dans le tableau extraordinaire que Dieu a peint en créant l'univers, pour qu'on voit la lumière, il allait y avoir des ondes d'ombre. J'accepte ça. Dieu merci, il m'a mis dans la lumière. Je suis reconnaissant. Mais j'accepte qu'il y a des ombres pour voir la lumière. Et moi, ça me conduit dans l'adoration. Maintenant, moi, ça me conduit dans l'adoration. Peut-être que tu dis, Yannick, cool, prends un bon temps avec le Seigneur. Moi, je vais rester ici tout de suite, là, parce que si j'avance encore, je vais être troublé. On est confronté à des mystères parce qu'on est des êtres limités. On ne peut pas appréhender, saisir toute la personne de Dieu. Et ça, c'est glorieux. Ça, c'est glorieux. Plein de fois dans les Écritures, le psalmiste va dire, mais tu es beau, tu es infini, tu dépasses tout ce que je peux concevoir. L'Église de l'espoir, on prie, on désire être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile de Jésus-Christ doit être un émerveillement, produire en nous un émerveillement merveilleux. Quand on voit quelque chose de merveilleux, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, tu fais juste dire « wow ». Wow. Tu n'essaies pas de... Tu ne dis pas « ok, attends, je vais écrire une équation mathématique ». Je vais tout mettre ça dans... Non, tu sais, l'émerveillement, c'est pas ça. C'est pas tu te lances... Il y en a qui peuvent triper sur les maths, là, on s'entend, là. Mais vous comprenez, tu es comme... Tu t'arrêtes, puis tu contemples. Et accepter que comprendre et connaître Dieu et l'adorer, c'est reconnaître que vous allez être dépassé. Vous allez vous arrêter devant des mystères. Et c'est là, c'est dans la parole, vous dites, c'est vrai. C'est bon, Seigneur, je veux t'adorer parce que tu es plus grand que moi. Donc, à retenir, la Trinité n'est pas un problème à résoudre, mais une gloire à adorer. Quand je discute avec des amis qui sont musulmans, un des défis qu'ils ont, les témoins de Jéhovah font la même chose, c'est que pour eux, tout ce qui n'est pas logique n'est pas acceptable. Vous le remarquez, et les musulmans sont souvent très logiques. Parce que leur approche de Dieu, il faut que ce soit logique. Le problème, c'est que ma logique est limitée par mon cerveau, puis j'essaie d'appréhender la personne de Dieu. Donc, il y a un moment où je vais simplement accepter un mystère par la foi, parce qu'il m'est révélé. D'accord? La Trinité n'est pas un problème à résoudre, mais une gloire à adorer. La gloire de Dieu, la gloire de sa gloire. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la beauté, la grandeur, la perfection de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il fait. La gloire n'est pas une partie de Dieu. Dieu est glorieux dans son entier. Ça définit Dieu. Dieu est glorieux dans tout ce qu'il fait. Un des aspects où on l'assume mal, c'est qu'il y a des aspects de la révélation de Dieu qui nous gênent un peu, qu'on ne voudrait pas mettre sur la table. Vous savez, là, quand je fais la passe que j'ai faite tantôt, oui, OK, puis Dieu a créé le diable. Mais là, il y a plein de chrétiens qui diraient, mais je n'irai pas là parce que je n'ai pas de réponse. Je comprends, mais si ce n'est pas ce Dieu-là que tu acceptes, tu ne connaîtras pas mon Dieu. Dieu est glorieux dans tout ce qu'il est. Éphésiens 6, 1 à 3, « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, 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 est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Psaume 113, verset 5, « Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu, il a sa demeure en haut. » Paul Tripp dit, « La gloire n'est pas quelque chose que Dieu possède, c'est ce que Dieu est. » On va parler de la sainteté de Dieu la semaine prochaine. C'est un petit peu la même chose. Il n'y a pas de switch on-off pour la gloire de Dieu sur Dieu. Il n'y a pas d'interrupteur on-off pour la sainteté de Dieu sur Dieu. Et c'est pour ça, tout à l'heure, on est dans Romains 3, 21-31. Quand Paul dit, oui, mais attendez, la justice de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Comment un Dieu juste peut pardonner l'injuste et le déclarer juste? Parce que Dieu n'a pas d'interrupteur sur sa sainteté. Ce n'est pas chaque fois qu'il regarde Sylvie, Serge, là, il dit, bon, ils ne sont pas parfaits, je vais fermer un petit peu, je vais tonner un peu par en bas, là, je vais baisser là, ma sainteté. Non, non, Dieu est saint. Dieu est glorieux. Et ça nous amène de manière plus pratique et concrète à nous. La guerre de la gloire, un combat du cœur. Nous sommes des êtres qui ont été créés pour dire « wow ». Dieu nous a créés pour dire « wow », littéralement. Et je dis, tu le sais, n'importe qui le sait devant la création. Chrétien, non-chrétien, athée, croyant, peu importe, tu vas prendre une marche dans la nature, tu vois une fleur qui éclose, j'ai des orchidées là, qui viennent d'ouvrir chez moi. Là. Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient? C'est comme, oh, t'as pas de bon sens, c'est tellement beau. C'est beau. Dieu nous a créés pour dire wow. Dieu nous a créés avec une soif de gloire destinée à nous conduire à lui. Parce qu'il est glorieux. Psaume 42, 2 et 3, mon âme soupire après Dieu, après le Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. Ésaïe 43, 7, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait. Dieu a créé toutes choses pour sa gloire. Nous avons des cœurs d'adorateurs. Et le péché, je trouve que c'est très bien dit, le péché fait de nous des voleurs de gloire. C'est ça qu'on est dans le fond. On est des voleurs de gloire. Je suis tombé sur une vidéo sur X hier, puis tu vois des cambrioleurs en plein downtown Londres avec leur masque qui fracassent une vitre, ils arrachent une vitre pendant que le magasin est ouvert, puis que les gens à l'intérieur essaient de ramasser les bijoux pour ne pas se les faire voler, puis ils font juste partir avec. Puis les deux gars sont en cagoule, puis ils font ça comme ça, devant les passants, tout le monde. C'est ça qu'on est. C'est ça qu'on est. Tu sais, c'est comme, c'est une scène odieuse, c'est en plein jour, personne agit, frappe, arrache la vitre. Tu vois les gens qui essaient de, les propriétaires, je ne sais pas, les employés qui essaient de protéger les bijoux, eux autres, ils servent puis ils partent. C'est comme, c'est pas subtil, tu sais. Mais c'est ça qu'on est. On est des voleurs de gloire. C'est ça la nature du péché. C'est qu'on veut refuser à Dieu la gloire qu'il mérite et la prendre un peu pour nous. Romains 1, hein, on vient juste de voir 21-25, « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. » Et cette idée-là de dire « ils ne l'ont point rendu grâce », c'est chaque fois que quelqu'un qui ne connaît pas le Dieu qui se révèle dans la Bible, mais qui peut connaître le Dieu qui existe et qui lève le poing au ciel en disant « je te maudis de m'avoir créé ». C'est ça qu'il est en train de faire. Il n'est pas en train de rendre grâce. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Lorsqu'on étudie l'apologétique, la défense de la foi, une des choses qu'on, selon moi, dans ma compréhension, je veux travailler quand j'annonce l'Évangile en m'appuyant sur ce passage-là comme une vérité. La personne qui est devant moi qui me dit qu'il est athée, la personne qui est devant moi qui me dit « écoute, moi, Dieu, ça ne me dit rien », je refuse de croire que fondamentalement, c'est ça qu'elle est. Pas que je ne crois pas sa parole, je crois qu'elle croit ce qu'elle me dit. Mais je crois que Dieu lui a révélé qu'il existe. Et donc, quand je prends l'approche, je vais faire un présupposé. Dieu s'est révélé à elle. Il y a quelque part, un moment, où elle a fermé ses oreilles, son cœur, puis elle n'avait plus voir Dieu. Ça, je le conçois. Je suis pécheur. Moi aussi, je suis un voleur de gloire. D'accord? Donc, le péché fait de nous des voleurs de gloire. Paul Tripp dit, « Le péché transforme chaque être humain en voleur de gloire. Nous exigeons la place qui appartient à Dieu seul. » Seule la gloire de Dieu peut satisfaire le cœur. Il n'y a aucune réalité créée qui ne peut nous apaiser durablement, sinon la soif, sinon dans la personne de Dieu, parce que cette soif profonde du cœur humain, dans le cœur humain. Seule la gloire de Dieu peut combler vraiment notre cœur. Et c'est une des grandes tristesses, si je veux être très concret, lorsque on est mécontent, pour toutes sortes de bonnes raisons. Un collègue de travail était dur avec moi, je rentre à la maison, c'est pas en ordre, les enfants se sont pas ramassés, je suis fatigué, plein de bonnes raisons, pas de reconnaissance, plein de choses. Et au lieu de se tourner vers Dieu pour aller se reposer, juste dire, regarde, je suis pas bien, je suis frustré, je suis désagréable, je suis irritable, bon, peut-être tu as besoin de dormir, mais même avant de dormir, ça pourrait t'aider. Juste prendre le temps de m'arrêter, aller lire un psaume, aller dans la prière. Dire, Seigneur, j'ai besoin de ça parce que c'est pas Netflix, c'est pas YouTube, c'est pas de la bouffe, vous comprenez? C'est pas ces choses-là qui vont apaiser vraiment mon âme. Parce que Dieu m'a conçu, j'ai été fait pour dire waouh. Puis quand je vais dire waouh devant Dieu, il y a quelque chose que nulle part ailleurs je peux trouver. Et trop peu de chrétiens sont exercés à faire ça. Ils disent, écoute, Yannick, moi, ça m'arrive deux fois par année. Pas qu'ils ouvrent la Bible, mais quand en ouvrant la Bible et en priant, ils disent, waouh, ça me brise le cœur. Puis c'est pas que je les condamne, c'est que je me dis, OK, il faut que tu t'y mettes, là. Qui aime faire du sport ici? On est quatre, là. Mais moi, personnellement, je n'aimais pas faire du sport. Je n'étais pas un sportif du tout, zéro pin-bar. Okay? Jusqu'à 40 ans dans ma vie, je n'étais pas un sportif du tout, du tout, du tout. Mais il y a un moment où tu dis, bon, je n'ai pas le choix, là, ou sinon je vais mourir jeune, ou je vais mal vieillir. Fait que là, tu t'y mets. En fait, le déclencheur, c'est quand mes enfants m'ont dit, nous détestons l'éducation physique. Je dis, OK, ça s'arrête ici. Là. On va faire du sport ensemble. Je ne vous donnerai pas cet héritage-là. Fait que là, je me suis mis à en faire. Et il y a un moment où il y a comme une switch qui se passe, c'est probablement hormonal, mais ça devient une des choses les plus agréables physiquement que tu peux vivre, de faire du sport. C'est comme, c'est un buzz, littéralement. C'est une, je ne veux pas scandaliser personne, c'est une petite coupe de vin que tu dis, ouf, mais moi là, je m'en vais faire du sport, c'est une coupe de vin. Je vous dirais, des fois, c'est trois coupes de vin, là, tu sais. Tu es censé vivre ça quotidiennement avec Dieu. C'est bien meilleur qu'une coupe de vin, là. Et beaucoup de chrétiens ont vécu ça juste 2-3 fois dans leur vie. Le cours qu'on fait ensemble vise à ce que tu puisses vivre ça presque sur demande. Les journées où tu ne vas pas vivre ça, c'est parce que tu es en prière, en intercession, puis tu portes des choses lourdes. Mais si tu pries en intercession, en souffrant assez longtemps, tu vas vivre ça encore. Les psaumes, on le voit très bien dans les psaumes, les cycles, hein, où c'est le désespoir, c'est la souffrance, c'est la douleur. Ça se termine comment généralement? Dans l'adoration. Dans l'adoration. Si l'Église pouvait simplement prendre conscience que sa meilleure pilule à prendre pour retrouver de la joie, c'était d'ouvrir la Bible et de passer assez de temps dans la méditation et la prière, on règle les 3/4 des problèmes dans l'Église. Parce qu'imaginez, ça veut dire qu'on est tout le monde en mesure d'aller dans la présence de Dieu et de régler notre anxiété. Je ne vous dis pas qu'on va tous devenir des gens super sereins. Non, on reste pécheurs, fait qu'on reste, on bronche de plusieurs manières. Certains d'entre nous, ils se lèvent le matin et ils ont besoin de lire la Bible encore plus que moi, parce que moi, quand je me lève le matin, la vie est belle. Les journées où je me lève et la vie n'est pas belle, Dieu m'a fait optimiste. C'est merveilleux. Certains d'entre vous, vous êtes des pessimistes finis, là. Ce n'est pas un jugement, c'est comme ça. J'ai d'autres problèmes, faites-vous-en pas. Mais, OK, donc c'est pas que ça règle tout, mais c'est pour ça qu'à l'Église de l'Espoir, on va être centré sur l'Évangile. Je veux revenir à ce qu'il y a de plus merveilleux en Dieu à tous les jours, parce que je sais, j'ai besoin de cette dose-là quotidienne. Mais imaginez qu'on est capable, plutôt que de dire, « Ah, Seigneur, je suis déçu parce que, ah, Seigneur, je souffre parce que, ah, Seigneur, tu sais, j'ai pas reçu ça. Ah, Seigneur. » Au lieu, je vais juste arrêter de dire, « Non, mais on me devait plus, puis je vais me concentrer sur Dieu. Et je vais lui rendre toute la gloire. » Et si l'Église était capable de faire ça, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. C'est ma prière. Seule la gloire de Dieu peut satisfaire le cœur humain. 4 réponses à l'existence de Dieu. 1, le déni. Refuser l'évidence de Dieu malgré la révélation de la création. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Romains 1, 18 à 20, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. 4 réponses humaines à l'existence de Dieu, le déni. Dieu n'existe pas. Deuxièmement, le concept de Dieu. Croire intellectuellement en Dieu sans que ça ait de relation, sans obéissance, sans transformation. Dieu existe comme, la Thaïlande existe. Moi, la Thaïlande, je ne suis jamais allé en Thaïlande. C'est beau, c'est abstrait, ça ne change rien dans ma vie, la Thaïlande. Ça a l'air magnifique, mais je n'ai rien à voir avec la Thaïlande. Un jour, peut-être que j'irai en Thaïlande. Un jour, peut-être que je connaîtrai la Thaïlande. Le plus que je sais, c'est la bouffe thaï. D'après moi, les Thaïs me diraient non. Viens en Thaïlande. Mais vous comprenez? Donc, il y a des gens, oui, Dieu. C'est tout. Il y a des gens qui viennent à l'église ici, dimanche après dimanche. Ça, c'est... Ils vont jusque-là avec Dieu. Oui, Dieu. Aucune relation, aucune obéissance, aucune transformation. Et certains d'entre nous, et c'est ce que Paul Tripp défend, certains d'entre nous qui avons connu, qui avons obéi, qui avons été transformés, on peut redevenir comme ça. Paul dit qu'on peut attrister, voire qu'on peut éteindre l'esprit. Paul parle de chrétiens charnels. Est-ce que vous n'avez pas vécu ça un moment dans votre vie où vous dites, « Mais Seigneur, depuis un bout de temps, on dirait que j'ai le cœur d'un non-chrétien. » On dirait que j'ai le cœur d'un non-chrétien, mes intuitions, mes pulsions, mes passions ne sont pas celles de quelqu'un qui marche par l'esprit. Le concept de Dieu. Dieu devient un concept. Titre 1:16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre. Et quand Paul dit ici incapable d'aucune bonne œuvre, ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables d'ouvrir la porte à quelqu'un qui ne peut pas ouvrir la porte, ce n'est pas ça. Une bonne œuvre à la gloire de Dieu. Une bonne œuvre lorsque Dieu te dit, regarde, voici les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi. Tu vas vivre cette épreuve-là. Ça, c'est la bonne œuvre que j'ai préparée d'avance pour toi. Incapable de ça. Ils décident de se détourner de Dieu pour marcher selon leur propre cœur. Parce que leur cœur n'est plus au diapason du cœur de Dieu. Le troisième, c'est la foi biblique vivante. Croire en Dieu, le chercher, s'abandonner à lui et vivre pour sa gloire. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu répond lorsqu'on le cherche. Tu es dans la souffrance, tu souffres, tu vis des difficultés, ton cœur est troublé. Qu'est-ce qu'on nous dit? Prendre un temps dans un psaume, aller dans la prière, prendre le temps qu'il faut dans la prière pour trouver Dieu dans la prière, dans la méditation des Écritures. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hein, Jésus dit, cherchez, vous trouverez. Jacques 2, 17, il en est ainsi de la foi. S'il n'y a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. C'est ce qui va conduire Paul Tripp à parler d'athéisme pratique. Agir temporairement comme si Dieu n'existait pas. Dans une certaine mesure, on le fait tous quelques fois par semaine, au moins. Il y a un moment où tu sais la bonne chose à faire, tu décides de ne pas la faire, tu agis comme si Dieu n'existait pas, là. Tu vas te repentir. Je ne parle pas de péché continu, je ne parle pas de péché répétitif, mais dans une semaine, là, je pense qu'on a tous péché au moins une fois. On a eu une pensée inacceptable, une parole inappropriée, un geste qui n'est pas adéquat. On a péché par commission ou par omission. L'athéisme pratique ne nie pas Dieu avec les lèvres, mais avec la manière de vivre. Et le souci, c'est ça qu'on a commencé à établir dans les précédentes semaines, le souci, c'est que lorsque je m'y livre, je finis par y croire. Et donc, si je ne suis pas attentif à ces moments où je me comporte, je pense, je parle, j'agis, je ressens ce qu'un athée vivrait, si je ne suis pas attentif à ça, le problème, c'est que je vais me prendre au jeu moi-même. Et là, je vais renforcer certains péchés dans ma vie, jusqu'à peut-être éventuellement éteindre l'esprit. Paul parle, par exemple, de l'amertume qui fait des racines. Combien de fois en 30 ans de ministère, Dieu m'a appelé à parler avec des frères et sœurs qui étaient dévorés par l'amertume depuis des années. Écoute, quand tu essaies d'entrer dans la conversation avec ces gens-là, ils sont pris dans un labyrinthe à l'autre bout du monde. L'amertume a produit un labyrinthe. Ils sont au bout du labyrinthe, là. Là, tu t'en vas, il faut que tu ailles les rejoindre là-dedans pour les faire sortir de là avec toutes tes lampes et tout le kit. Puis, suis-moi, suis-moi. Écoute, tu te retournes, ils ont repris encore 3 détours. Tu fais juste leur dire, non, mais on se rappelle, le Dieu est souverain. Oui, oui, oui. Ils repartent dans leur labyrinthe. Et ça devient une espèce d'endroit où, finalement, c'est la seule place où ils se retrouvent, c'est dans leur labyrinthe. Ils ne sont pas capables d'en sortir. Le problème, c'est que lorsqu'on agit de manière fonctionnelle comme un athée, on finit par se prendre au jeu. Et donc, lorsque je dénote, lorsque j'observe dans mon cœur des comportements qui n'honorent pas Dieu tel qu'il est, ce que tu me demandes, Dieu, c'est parfait. Ce que tu me demandes, Dieu, devrait m'apporter de la paix, même quand il y a de la souffrance, même quand ça ne me tente pas de le faire. Et je peux me faire prendre au jeu, puis éventuellement, je vais être pris dans le labyrinthe de mon péché. L'athéisme pratique ne nie pas Dieu avec les lèvres, mais avec la manière de vivre. Je vais aller tout de suite à... Je vais sauter 2 points, parce que je vais aller vers ce qui est plus pratique. Si vous allez au point 7, je m'excuse. Rien n'est plus humiliant que reconnaître l'existence de Dieu. Alors, un des défis, je pense, et je pense que Paul Tripp a raison, c'est que contempler Dieu n'est pas que beau, agréable et agréable. contempler Dieu ne produit pas que « wow », ça produit aussi « wash ». C'est inévitable. Quand je regarde Dieu dans toute sa beauté, je vais dire « wow, Dieu est merveilleux ». Mais un moment où, tu sais, je réalise que « ok, mais moi, je ne suis pas grand-chose ». Puis l'Évangile, c'est de dire « non, non, mais Dieu m'a aimé, puis il a dit « t'es mon enfant ». Oui, mais je ne suis pas grand-chose. Mais moi, je t'aime. Donc, tout va bien, tu sais, dans l'Évangile. Mais contempler la gloire de Dieu est humiliant pour l'être humain. Par exemple, lorsque je parle avec mes amis musulmans, je le vois dans la logique. Leur logique est plus importante que la révélation de Dieu. Et quand je dis ça, peut-être vous vous dites, non, mais attends, c'est parce qu'ils connaissent juste le Coran. Non, mais quand je vais dans le Coran puis je leur montre que le Coran n'est pas logique, là, ils sont mal pris. Donc, ils devraient logiquement venir écouter le Dieu de la Bible. Ils ne peuvent pas aller là. Ils ne peuvent pas aller là. Parce que rien n'est plus humiliant que de reconnaître l'existence de Dieu, contempler qui est Dieu. C'est humiliant pas dans le sens que, tu sais, ça me détruit, là. Dans le sens que je prends la mesure des choses. C'est Dieu. Donc, je vais me taire, puis je vais l'écouter. J'ai déjà dit souvent à l'Église, à une de mes scènes préférées dans Narnia, c'est lorsque la méchante reine commence à être arrogante avec le roi Aslan. Puis à un moment donné, tout ce qu'il fait, il rugit, là. Dans le fond, il fait juste dire, garde, juste te rappeler qui je suis, là. On va arrêter de discuter. Rien n'est plus humiliant que reconnaître l'existence de Dieu. Les attributs de Dieu nous exposent. La semaine prochaine, on va parler de la sainteté de Dieu. Ça va vous confronter à vous-même. Alors, qu'est-ce que Paul Tripp nous dit de faire tous les jours? Tous les jours, par rapport à cette doctrine de Dieu. Discipline spirituelle, contempler Dieu. Trouve le moment où tu contemples Dieu. Et tu peux prier toute la journée. Moi, je prie, il y a des dizaines de prières qui partent au ciel dans la journée. Mais ce n'est pas vraiment la contemplation de Dieu, vous comprenez? Trouve le temps où tu t'arrêtes dans la prière, tu vas contempler Dieu. Cherche Dieu dans sa parole. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous le dit, il y a trop de chrétiens qui restent des enfants dans la foi parce qu'ils n'étudient pas la parole de Dieu. Et donc, ceux d'entre vous qui aimez ouvrir la Bible, puis prendre des notes, puis aller chercher des versets, merveilleux, c'est génial! Il vous dit, ouais, mais je veux le faire aussi en prenant des cours, puis je vais retourner. Parfait, c'est génial, l'Église est là pour ça. Recherchez Dieu dans sa parole. Tu as des doctrines qui te troublent. Ce matin, je ne t'ai pas dit de ne pas les étudier. Je t'ai juste dit, quand elles te troublent au point que tu ne peux pas adorer, reconnais qu'il y a des mystères, mais continue à les étudier. C'est génial. L'adorer, tout simplement, prendre le temps d'adorer Dieu, de dire combien il est beau. On a fait une série sur la prière qui était basée sur un petit livre, L'heure qui change le monde. Très, très, très pratique. C'est très concret. Si vous n'êtes pas capable de vivre ces choses-là, moi, je vous dis, allez écouter la série, procurez-vous la petite plaquette, là. C'est comme 7 $, je pense, ou 10 $. Prenez la routine. Quand je vis des moments où j'ai de la difficulté à aller régulièrement dans la présence de Dieu, je reprends ma routine, littéralement. Je pars mon chrono. Je fais mes 12 étapes de prière selon le petit livre, 2 minutes 30 chaque. Vous allez dire, waouh, t'es pas très spirituel, le pasteur. Des fois, je suis tellement stressé, j'ai tellement de choses dans ma tête, je suis en train de faire tellement de choses que j'arrive pas à m'arrêter. Fait que j'ai besoin, je passe ça, 2 minutes 30, je fais ça 12 fois. Là, oh, Seigneur, je suis tellement bien. Est-ce que j'ai le temps de continuer un petit peu? L'adorer. Prendre le temps de prendre l'engagement de s'abandonner. Quotidiennement, de dire, tu es Dieu, tu es souverain, je viens, je m'abandonne, Seigneur. Je m'abandonne à toi, c'est toi qui dirige ma vie. Prendre le temps de s'examiner. D'aller dans la prière et dire, Esprit Saint, est-ce qu'il y a des choses? Je viens de lire ta parole, qu'est-ce que tu es en train de me montrer? J'ai déjà partagé souvent avec l'Église, quand j'ai le privilège de faire du coaching avec quelqu'un, dans mon esprit à moi, ce n'est pas moi le coach, c'est le Saint-Esprit. Donc, je travaille avec la personne, j'arrive avec des propositions, on va parler de ça aujourd'hui, on va parler de ça, mais je veux savoir ce que Dieu est en train de faire dans sa vie cette semaine. Parce que Dieu est en train de la confronter sur des choses. je veux l'aider à s'examiner. D'accord? Prendre le temps de s'examiner. Prendre le temps de confesser. J'ai toujours à confesser parce que Dieu est parfait, moi je suis imparfait. Fait que même quand je suis dans ma meilleure disposition de cœur, je peux simplement confesser. Dieu, tu es infini. Aujourd'hui, je vais me tromper. Aujourd'hui, je vais être en deçà de ta gloire. Crier à la grâce de Dieu. Prendre le temps de dire, Seigneur, j'ai besoin de la puissance de ta grâce en moi aujourd'hui. Autrement, je vais te faire défaut, c'est certain. Je n'ai pas la grâce en moi-même de faire par moi-même ta volonté en toute chose. Célébrer. Et puis, on répète, persévérer. Conclusion à méditer, croire vraiment en Dieu, ce n'est pas seulement affirmer qu'il existe, c'est vivre chaque jour comme s'il était réellement au centre. C'est bon, hein? On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Ta parole est belle et magnifique. On a lu plein de versets. Ta parole est magnifique, mais ta parole est magnifique parce qu'elle nous parle de celui qui est parfait. Elle nous parle de toi. Toi, Seigneur, tu es parfait. Tu es sans changement, tu es indépendant, sans besoin. Tu es amour, tu es justice, tu es sainteté, tu es grâce et miséricorde. Tu es tout-puissant, tu contrôles toutes choses et toutes choses participent à ta gloire, Seigneur. Serve ta gloire, on a été créés pour ta gloire. Seigneur, on veut confesser ce matin que notre bonheur, c'est de reconnaître que nous avons été créés pour toi. Pas pour nous, par toi, pas par nous-mêmes. Seigneur, on veut t'adorer ce matin. Apprends-nous cette semaine et au cours des prochains mois à prendre le temps de venir te contempler pour se reposer en toi, Seigneur. Parce que c'est la chose juste à faire. Reconnaître que tu es Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Merci. Si vous n'êtes pas déjà inscrit au cours, vous pouvez envoyer un courriel à info@eglisesespoir.com, puis vous recevrez les notes de cours, tout ça. Puis la confession de foi, là, la déclaration, je vais la faire ajouter dans les notes, vous allez recevoir ça. Merci. Plaisir.